Vous écoutez
RMC.
Votre maison sur RMC avec Mano Mano, la référence européenne du bricolage et du jardinage en ligne.
RMC.
7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, 7h11, c'est RMC. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là. RMC qui vous propose, vous le savez, le samedi et dimanche, le week-end des experts. Demain, 3h d'auto, juste après De quoi je me mail. 7h-10h, Jean-Luc Moreau sera là. Dans une heure, tout pile, c'est Christian Ekia qui nous rejoindra. On va évoquer, eh bien, l'ORL. On a mal à la gorge, on a le nez qui est bouché. On tousse un peu.
Ça va, moi, mieux. C'est passé.
Ça va, Christian?
Oui, oui.
Non, mais c'est pour ça que j'allais vous poser la question.
Mais oui.
Ah, pour bon,
voir. Ah,
oula,
ah,
il hein, y a non, du monde quand même.
Ah, oui, non, non, oh, non, non,
non, non, non, non, non, je plaisante.
Arrêtez.
Hein. Je plaisante. Christian PC qui est là, vous le savez, jusqu'à 8h pour notre rendez-vous bricolage maison déco. Tout à l'heure, on va parler de la sécurité de votre installation électrique. Enfin,
oui,
pas de la vôtre,
bah,
de la nôtre.
Oui, de la nôtre, bah, de celle de tout le monde, parce que finalement, on est rarement avec une installation parfaitement aux normes, puisqu'évidemment, la norme évolue tout le temps. Et nous aurons avec nous Florence Zonette, qui est directrice générale de Promotelec, donc l'association qui est engagée pour le confort et la sécurité, et notamment en matière électrique dans votre maison.
On évoquera aussi le nouveau système de soutien à la rénovation,
oui,
énergétique.
Oui, je vais faire un petit peu une introduction. Ce qui va remplacer, ce qui remplace déjà, mais qui va remplacer complètement dans l'année, le CITE, le fameux crédit d'impôt pour la transition énergétique.
Alors, à quelle sauce va-t-on être mangé?
Voilà. Alors, à quelle sauce va-t-on être mangé? Je vais déjà poser le décor. Et normalement, nous devrions avoir une secrétaire d'État la semaine prochaine qui devrait venir nous détailler tout cela.
Oh.
Donc, bah, on va voir hein, si c'est Madame Pannier-Runacher qui est secrétaire d'État auprès du ministre des Finances, parce que je me suis dit qu'il fallait mieux aller voir ce qui allait payer pour savoir à quelle sauce, justement.
J'espère qu'il aura bien révisé ses dossiers.
Son mangeur.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà. Et puis, bien sûr, à tout moment, vous pouvez nous joindre au 3216 pour poser vos questions, bricolage, maison. 3216, Christian PC est là pour ça. Vous avez aussi l'appli Direct Studio, bien évidemment, hein, à votre disposition. Et puis, dans quelques instants, je vous offrirai une boîte à outils, tiens.
Ah, c'est sympa, ça.
Mais attendez, garni.
Ah oui,
83 outils,
c'est
Christian PC.
C'est bien, c'est la
et
bonne
je
base.
Vois tout de suite que vos yeux s'illuminent.
C'est la bonne base.
Eh oui, vous montrez une boîte d'outils à Christian PC, puis d'un coup, c'est plus le même homme.
Voilà.
Hein.
Absolument, je rêve.
Mesdames, chères auditrices, vous êtes fans de Christian PC, vous voulez le séduire. Ce n'est pas la peine de lui offrir des chocolats ou un bouquet de fleurs.
Ouais.
Offrez-lui une boîte à outils garnie et c'est dans la poche.
Et vous savez que
c'est in the pocket.
La première publication à laquelle j'ai travaillé, je ne dirai plus en quelle année, s'appelait justement la boîte à outils.
C'était juste après l'après-guerre.
Non, la première.
Ah, la première.
Oui, évidemment.
C'est ça.
Première guerre.
Ça s'appelait comment, pardon?
La boîte à outils.
La boîte à outils, tout simplement.
Tout simplement. Ça a été un très grand succès à l'époque.
Parfait. Il est 7h14, c'est RMC. Bienvenue dans ce week-end des experts maison. Et si nous accueillions mon cher Christian,
oui,
Alain,
ben,
qui est là.
Pourquoi pas, hein.
Allez, c'est parti. Bonjour Alain.
Bonjour Christian et François.
Oh là là, oui, il a une pêche, Alain, ce matin. Il a fait sauter tous les vues maîtres de la console de Paul Nouveau qui réalise cette émission ce matin.
Un petit moment, je suis levé aussi, c'est pour ça.
Ah, ben c'est pour ça. Vous nous appelez d'où, Alain?
À côté de Clermont-Ferrand, un petit village, à Pérignat-sur-Allier.
Très bien.
Très bien.
Christian PC, concentré, et nous vous écoutons.
Dites-nous.
Alors, j'avais une question. J'aménage une salle de bain. Et le sol, j'ai fait ça en tripli OSB3.
Oui.
Oula, attendez.
Quelle épaisseur?
Qui est posé sur des solives. Bon, parce que dessous, je passe l'eau, l'électricité, enfin pas mal de trucs. Et je voudrais le carreler. Mais je m'interroge quand même sur du tripli, ce que ça peut donner dans le temps.
Alors,
le carrelage, vous collez là-dessus.
Quelle épaisseur, le tripli?
18
mm. Ah, alors attendez,
c'est un peu faible. Hein.
Parce que là,
alors,
j'ai l'impression que vous êtes, oui, qu'on est dans
alors,
chez
Bricorama
et vous discutez entre vous. Nous, enfin, moi, j'ai rien compris.
Alors, donc, le tripli, c'est un panneau de particules qui est comme, on va dire, avec des plus gros copeaux que ne le serait le panneau de particules ordinaire et qui sert justement à faire des planchers, à faire un certain nombre de de structures, également par exemple des pans de couverture avec une isolation, etc. Moi, ce qui me chagrine dans votre affaire, c'est le 18 mm. C'est que 18 mm, c'est un peu faible parce que je ne sais pas quel est l'écartement de vos solives.
Ça varie de 40 à 50.
Bon, donc ça va. On est dans. Bon, la problématique, c'est d'avoir une rigidité suffisante et d'avoir une capacité de supporter du poids suffisante également. Donc 18, c'est bien normalement pour faire du, mettons, un plancher de comble dans lequel on ne va pas souvent, où on ne va pas stocker grand chose. Là, vos 18 mm, je ne sais pas si c'est vous qui allez installer baignoire, douche, équipement, etc. Mais ça fait déjà du poids tout ça. Vous m'avez parlé de passer de l'électricité en dessous. Là, j'ai justement vu Florence Delettre faire oups, qui est en face de moi, donc de chez Promotelec. Votre problématique, là, est une problématique d'étanchéité également. Donc, c'est pas seulement le fait de mettre du carrelage et de savoir s'il va tenir dessus. Pour qu'il tienne dessus, bah, vous allez mettre un primaire d'accrochage, vous allez pouvoir faire un agréage. Il va falloir peut-être mettre une natte d'étanchéité pour être sûr. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'il faut que ce soit sérieux. Quand je dis qu'il faut que ce soit sérieux, ça veut dire qu'il faut vraiment que, à mon avis, c'est pas du ressort de l'amateur. Il faut que vous ayez un professionnel qui vous fasse ça et qui vous fasse ça véritablement dans les normes pour avoir une bonne étanchéité. Vous verrez avec lui la notion du poids à supporter. Parce que n'oubliez pas qu'une salle de bain, je ne sais pas si vous y mettrez une baignoire, mais une baignoire remplie, ça pèse son poids, hein, c'est plusieurs dizaines de kilos, donc faites attention à tout cela.
D'accord. Non, il n'y aura pas de baignoire, il y aura juste une douche, un receveur de douche.
Mais bon. Mais là, vous avez un problème d'étanchéité.
Oui, voilà, je comprends bien. Le carrelage, moi, mon inquiétude, c'était qu'il se décolle, en fait.
Mais non, si vous faites. Non, c'est pas un problème qu'il se décolle. S'il est correctement posé, avec un primaire d'accrochage, avec éventuellement un ragréage, éventuellement aussi, j'irais une natte, là, non pas d'étanchéité, mais simplement de renforcement. Allez voir des gens comme CDO, comme La Paire, qui ont qui donnent des conseils dans leur catalogue même sur la façon de préparer un sol de baignoire, enfin de salle de bain, pardon.
Et bon tripli à tous et à toutes et pour bon ce tripli, week-end, voilà. Bien sûr.
Très bon produit, le tripli.
Non, mais voilà, on n'a pas souvent parlé du tripli.
Non, faudrait que je vous fasse un jour un sujet sur les panneaux, parce qu'on s'y perd un peu et il y a des choses intéressantes.
Oui, c'est vers Belleville, comme nous dit Paul Novo, notre réalisateur. Les triplis de Belleville.
Ah, les triplis de Belleville. Oui, Rose. Oh,
non, c'est pas moi. Bon, non, c'est pour ça que là, je me désolidarise.
Voilà, vous êtes convenu.
Je ne suis que le messager de la blague de Paul, notre réalisateur. Oui. 7h19 sur RMC. Je pense qu'il est temps maintenant de resserrer les boulons et de parler de plâtre.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Écoutez, alors je ne comprends plus rien. Est-ce que c'est le conseil béton ou est-ce que c'est un conseil en plâtre?
Mais enfin,
là, franchement,
on est dans la maçonnerie, hein, de toute façon.
Ça, c'est clair.
Voilà. Alors, le plâtre, eh bien, tout le monde connaît le plâtre, mais on ne sait pas forcément à quoi ça sert aujourd'hui. Et on ne sait pas comment on le fait, comment on le fabrique, et ce que c'est. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le plâtre, c'est du gypse. Autrement dit, alors là, je vais faire savant, c'est du sulfate de calcium hydraté.
Ah oui, c'est mieux.
Alors, c'est quoi ça? Ben, tout simplement, ça a résulté dans les millions d'années qui nous précèdent, de l'évaporation des eaux saumâtres, c'est des eaux un peu salées, donc finalement c'est un sel, c'est quelque part une forme de sel. Alors il y a des couches successives qui se sont accumulées, et notamment dans les grands bassins sédimentaires, et c'est pour ça qu'on le retrouve notamment en région parisienne. Alors on est en région parisienne et à Paris tout particulièrement, il y a du gypse en pagaille. Alors c'est quoi, par exemple, si je vous dis la butte Montmartre, c'est du gypse.
Ah oui.
Si je vous dis les buttes Chaumont, c'est du gypse. Si je vous dis Ménilmontant, c'est du gypse. Alors c'est du coup un véritable gruyère de galerie, puisque pour l'extraire, on peut l'extraire à ciel ouvert, mais on perce aussi des galeries, d'où des risques d'effondrement dans ces zones. Alors c'est quoi ? C'est une roche très tendre qui affleure donc souvent le sol. on l'extrait, on la réduit en poudre. On la chauffe à 150 degrés, ce qui fait que ça élimine l'eau qui était contenue dedans. Et c'est l'ajout d'eau ensuite qui entraîne sa solidification, autrement dit sa prise. On dit que le plâtre prend, comme on dit que le mortier prend. Alors jusque dans les années 1960 évidemment, le plâtre a connu son heure de gloire à travers les enduits muraux, à travers les plafonds. On enduisait les murs et les plafonds de plâtre. Alors depuis, il y a quelque chose qui est encore du plâtre, mais c'est la plaque de plâtre, marque la plus connue, Placo. Alors là, on a du plâtre avec deux couches de carton qui en serrent une couche d'environ 10 mm de plâtre. Et avec l'épaisseur des cartons, ça fait 12-13, d'où le BA13. Quand on parle de BA13, BA13, ça veut dire bord aminci. Donc ça, c'est très très important de savoir que la plaque de plâtre a supplanté le plâtre lui-même. Alors ceci dit, le plâtre c'est un liant hydraulique, c'est-à-dire que comme le ciment, c'est quelque chose qui durcit quand on ajoute de l'eau. D'accord. La difficulté avec le plâtre, c'est que la prise, c'est-à-dire le durcissement, qui d'ailleurs s'accompagne d'un dégagement de chaleur, eh bien, ça se fait de façon continue. Ça se fait rapidement. Donc, quand on a à faire du plâtre, qu'est-ce qu'on fait? On saupoudre du plâtre sur l'eau, donc qu'on va avoir mis dans une auge, et puis on va faire une pâte. Et il y a un moment où la pâte commence à prendre.
À prendre, d'accord.
Et c'est là qu'il faut l'appliquer.
Et voilà, c'est ça.
Parce que ça ne s'arrête pas. Le ciment, ça met du temps à durcir. Là, ça met quelques minutes. Et si vous n'intervenez pas tout de suite, à ce moment-là,
si on façonne pas le plâtre tout de suite,
immédiatement, il commence à durcir.
Et après, c'est cuit.
Et non seulement c'est cuit, mais c'est mort. On dit le plâtre est mort.
Le plâtre
parce
est mort.
On ne peut pas rajouter d'eau. Avec du ciment, vous pouvez rajouter
d'eau. Ah oui,
d'eau.
D'accord.
Avec le plâtre, vous ne pouvez pas rajouter d'eau. Donc, il n'y a plus qu'à le jeter et recommencer. Et à recommencer. Alors, on s'en sert aussi au CM pour faire du moulage. Tous les parents et grands-parents ont vu leurs petits-enfants ou leurs enfants revenir avec le cendrier en plâtre, la petite figurine, le petit oiseau qui a été fait à l'école. Alors ça, c'est du plâtre à modeler.
D'accord. Voilà. Et non, la pâte à modeler.
Et non, pas la pâte à modeler, le plâtre à modeler.
D'accord. Voilà. Christian Ricca doit être un spécialiste du plâtre. Il a dû.
Pour l'estomac.
Alors, pour l'estomac et puis pour des membres cassés, voilà, sans doute. Des os cassés.
On va voir si. Je lui poserai quelques questions tout à l'heure.
On verra un petit peu. 7h23, c'est RMC. On revient dans un instant, les amis. Et on évoquera la sécurité de notre installation électrique.
Oui.
Sujet important.
Essentiel.
Bien évidemment. Avec notre invité Florence Delettre, qui est directrice générale de Promotelec. Et puis bien sûr, toutes vos questions, bricolage, maison, 3216. Justement, vous voulez parler d'installation électrique, c'est le moment ou jamais. Hein. Le standard RMC 3216 ou l'appli RMC Direct Studio. Et dans quelques instants, je vous offre en bonus une boîte à outils. À tout de suite.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Ça m'a fait comme une décharge électrique, dites-donc.
Votre maison, François Sorel.
Christian PC.
Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs,
Vous l'avez reconnu ou pas?
Oui, je l'adore, évidemment.
Bien sûr. Christian, mettez les doigts dans la prise pour voir ce qui se passe. Allez-y. Allez débrancher. Bon, alors attention, plus sérieusement les amis, nous allons parler de la sécurité de notre installation électrique. On prend ça à la légère, mais bon, c'est un sujet grave, bien sûr. Et on attend vos questions, le 3216, l'appli RMC Direct Studio, n'hésitez pas à nous appeler. Mais juste avant tout cela, j'aimerais quand même vous rappeler, et je vous l'avais promis, que je vous offre un beau cadeau.
Ah oui, allez-y, la boîte
d'outils. Attendez, alors je vous demande pas de trafiquer le panneau électrique avec, ça c'est pas bon signe, il faut pas faire ça.
Le panneau électrique.
Comment on appelle ça, l'armoire?
Le tableau.
Car sur RMC, je vous offre une caisse multi-outils Makita. Voilà. Elle est composée de 83 pièces.
Dites-moi.
Tournevis, clés, etc. qui sont rangées sagement dans une mallette pratique à transporter. Donc si vous voulez remporter cette boîte à outils complète, vous nous envoyez dès maintenant maison tout simplement au 73216. Maison par SMS au 73216. Bonne chance!
Alors, on va parler électricité avec Florence Delettre. Bonjour.
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 Vous êtes directrice générale de Promotelec. La définition de Promotelec, en gros?
Pour faire simple, on est engagé dans un habitat sûr, connecté, responsable, performant. Voilà.
Vous êtes une association.
On est une association.
Vous n'avez pas de, il n'y a pas derrière d'intérêt économique, on va dire.
On a une filiale aussi qui s'appelle Promoter l'Excellence.
Voilà, ça c'est voilà. Autre chose. C'est pour la certification des maisons,
c'est ça.
On va dire, mais des logements aussi. Hein,
des logements, voilà. Des
appartements, je veux dire. Parce que...
logements au sens large.
Voilà. Donc votre mission, c'est d'informer en fait.
C'est de conseiller, c'est donner de la visibilité sur la réglementation aussi.
Mmh. En termes de sécurité, pour faire des économies d'énergie, j'imagine aussi. Voilà, avec tout l'aspect connecté hein, qui arrive maintenant dans la maison, il y a vraiment des solutions sympathiques pour économiser de l'argent.
Voilà, alors lorsqu'on fait un peu un bilan, lorsqu'on va chez les gens, lorsqu'on peut y arriver, on constate souvent que le bilan électrique est mauvais. Alors, depuis quelques années, il y a le diagnostic électrique obligatoire, comme il y a le diagnostic amiante, comme il y a différents diagnostics, donc avant la vente et la location. Alors, vous sortez juste d'une étude. Les gens sont quand même assez sensibilisés apparemment à cela. Est-ce que ça sert à quelque chose ce diagnostic ? Parce qu'il n'est pas contraignant.
Il n'est pas contraignant, mais par contre, il a un avantage, c'est de voir la réalité des choses. La réalité des choses fait qu'il y a quand même des travaux à faire, et c'est ce qui est important, c'est-à-dire qu'il est connu, parfois méconnu aussi, donc il faut continuer à faire ce diagnostic pour pouvoir mettre en sécurité la maison.
Oui, alors ça veut dire que lorsqu'on va louer ou lorsqu'on va vendre son logement, on va faire ce diagnostic obligatoire. Qu'est-ce qui va en résulter ? Vous avez un rapport.
Vous avez un rapport et puis on vous donne les points critiques ou non critiques de l'état de l'installation électrique de votre logement.
Christian, à vue d'œil, pour tous ceux qui nous écoutent, qui habitent dans une maison qui a 10, 20, 30, 40, je sais pas combien, à quel moment on doit se dire, tiens, mon installation électrique n'est plus aux normes. Alors, est-ce qu'il y a des signes visuels qui font où il faut vraiment prendre le problème à bras le corps.
Alors je serais tenté de dire d'abord l'état du tableau électrique avec donc maintenant un certain nombre de coupes-circuits et de sécurité avec notamment des disjoncteurs, le fait que l'installation soit raccordée à la terre. Ça, c'est absolument essentiel que toutes les prises soient raccordables à la terre.
Ça on le voit comment?
Bah, par exemple, vous savez, il y a, dans une prise, vous avez des alvéoles, et puis, vous avez une broche.
Oui.
Qui sort.
D'accord.
Si, grosse prise, quoi. Voilà. Pas forcément grosse, c'est une prise normale, hein. Si vous n'avez pas de broche, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de raccorder à la terre. Attention, il y a des petits malins qui changent avant de vendre leur appartement, qui changent leur prise, qui mettent des prises avec des alvéoles et donc cette broche. Et puis en fait, il n'y a pas de raccordement à la terre.
Il n'y a pas de raccordement derrière.
Et donc là, ça ne sert à rien, bien évidemment.
Ça ne sert à rien. Alors,
ça sert à quoi, une installation qui est branchée à la terre ?
Tout simplement, vous voyez, vous avez les fuites de courant là, qu'il faut y avoir quand il y a un défaut. Et au lieu de le courant, je vais faire un peu de la vulgarisation, au lieu de vous électriciser, c'est-à-dire que vous prenez le jus, et en fait, le jus, il va à la terre.
D'accord.
Et quand il va à la terre.
Donc c'est un problème de sécurité.
Bien sûr.
Totalement.
Et quand il va à la terre, s'il y a un disjoncteur différentiel en tête de circuit et en tête de l'installation, l'installation disjoncte automatiquement.
Voilà.
Avant même que vous ayez touché quoi que ce soit.
D'accord.
Lorsque se produit le retour à la terre, paf, l'installation disjoncte.
Christian, en parlant d'années ou de dizaines d'années, une installation commence à être obsolète à partir de combien d'années ?
Alors moi, je veux dire une dizaine d'années, c'est à peu près la règle.
Oui. C'est-à-dire que je suis dans une maison qui a été construite en 2010.
Oui.
J'ai une installation électrique obsolète ?
On n'a pas une installation obsolète. On va dire qu'on n'a pas une installation qui est performante
et
en sécurité absolue.
Voilà.
Non, mais obsolète, dangereuse, je voulais dire.
Non, pas dangereuse, parce que de toute façon, les constructions déjà depuis plus de. Enfin, tout ce qui est depuis plus de 15 ans, théoriquement, sont aux normes. Donc c'est au-delà. C'est ceux qui ont eu un permis de construire avant 1975. Donc déjà, il faut déjà être très vigilant. Et puis après, il y a le matériel.
1975, c'était il y a 45 ans.
Mais là, vous avez des disjoncteurs. L'installation qu'il faut absolument refaire.
Il y a eu des grandes dates, en fait, dans l'aménagement de la maison.
Alors, je veux dire qu'en gros, jusque dans les années 60, on est avec des coupes-circuits à plomb. Vous savez, avec le porte-fusible, la broche en porcelaine.
Donc le fusible qu'on enlève, qui cramait.
Une horreur.
Ça va absolument disparaître. D'accord. C'était jusqu'à quand, ça ?
Les années 60.
D'accord.
À partir des années 60, on commence à avoir des fusibles à cartouches, dans des puits avec un capuchon fileté, qui va donc... Déjà, c'est beaucoup mieux. Déjà, c'est beaucoup mieux. Mais ça n'a pas l'aspect sécuritaire du retour à la Terre et du disjoncteur qui fait sauter. Donc, et après, les grandes dates, c'est les années 70, on va dire 80, où là, vous commencez à avoir des installations qui sont avec des disjoncteurs divisionnaires.
Et puis après aussi, vous avez aussi l'évolution de la norme. C'est-à-dire qu'en tout à l'heure, au début, on parlait d'objets connectés, etc. Il faut aussi bien vérifier que votre installation, elle supporte toutes ces technologies nouvelles qui vont arriver et aussi bien en puissance. Alors, on n'est pas en sécurité électrique, mais là,
oui,
c'est votre contrat
si elle est connectable,
mais
etc.
Si elle est connectable, voilà, parce que les dangers sont énormes. Hein. On parle quand même de 50 000. Enfin, si l'installation n'est pas correcte, si la mise en sécurité n'est pas là, s'il y a un des six points là, qui font défaut, mise à la terre, vétusteté, fil apparent, pas de disjoncteur différentiel, etc. C'est 50 000 incendies par an. Et puis, c'est aussi 400 000 dommages sur la personne.
Oui, donc c'est quand même des blessés.
Derrière, on parle de technique là, mais l'électricité, elle est pas dangereuse. Le seul truc, c'est la façon de bien l'utiliser, et puis que les gens soient responsables et que les propriétaires, bailleurs aussi, soient responsables. Parce que là, c'est pas faire du diagnostic pour du diagnostic, c'est que derrière, la responsabilité, celui qui ne fait pas les travaux sur ces points-là, et que s'il y a un accident après, bien évidemment, sa responsabilité est mise en cause.
Bien sûr.
Alors, oui, attendez, ça c'est très important ce que vous êtes en train de me dire. Ça veut dire que s'il y a un diagnostic électrique qui révèle un certain nombre de défauts, il n'y a aucune obligation à faire les travaux. Ça, c'est pas normal, je trouve. Il n'y a aucune obligation à faire les travaux avant de vendre son bien. Mais vous êtes en train de me dire que si j'ai vendu ce bien avec une installation manifestement défaillante, est-ce qu'il y a une responsabilité du vendeur, peut-être du bailleur en revanche, mais du vendeur, il n'y a pas de responsabilité puisque l'acheteur a été mis au courant, c'est le cas de le dire, de ce qui n'allait pas dans l'installation.
Oui, alors, il y a, si vous êtes un propriétaire bailleur et que vous louez un logement, vous devez mettre à disposition un logement décent.
Oui,
donc, dans le côté décence, il y a aussi décence et que c'est la loi Allure. Donc après, vous avez bien évidemment, vaut mieux que le propriétaire fasse, parce qu'en plus, il ne s'agit pas de refaire toute l'installation électrique. Là, on est bien sur la mise en sécurité de l'installation électrique. Donc, le propriétaire, d'ailleurs, on voit bien, hein, 67% réalisent, ou 63%, je crois, de l'enquête montre, réalisent des travaux. Donc voilà, il en reste...
Oui, bon, il y a une majorité, donc vous êtes en train de me dire qu'il y a une majorité de bailleurs, donc de propriétaires qui louent leur appartement, qui, lorsqu'ils ont un diagnostic qui fait apparaître des failles dans la sécurité, vous êtes en train de me dire qu'il y a une majorité qui font des travaux.
Oui, il y a une majorité, il y a 63%.
Alors qu'avant, ils s'en foutaient complètement.
Voilà, ils faisaient ou ils faisaient pas, parce que l'électricité fait peur quand même, donc peut-être que c'est là aussi la première chose qu'on met aux normes. Maintenant, ici, il ne fait pas, et que le locataire, alors déjà, bien sûr, on veut dire, il peut ne pas louer, mais bon,
peut-être... Oui, voilà. Mais on pourrait peut-être imaginer ne pas pouvoir louer si c'est pas aux normes.
Ça ne m'appartient pas, mais
oui,
peut-être
mais moi,
aussi.
Ça m'appartient de le dire.
Et puis après, le locataire, il peut exiger, il y a les commissions départementales de conciliation pour un règlement à l'amiable, et puis après, on passe à la vitesse supérieure, le tribunal.
Donc, oui, alors, ça c'est important. Ça veut dire que, parce que moi, j'ai souvent ce type de questions, si un locataire constate que son installation est manifestement obsolète, parce que il y a des locataires, on parle là du diagnostic pour ceux qui viennent de louer un appartement, mais il y a des gens qui sont locataires depuis 50 ans. Hein. Donc, et s'ils ont l'installation qui a 50 ans, elle est forcément hors norme, et elle est même dangereuse.
Oui.
Donc, alors, la procédure, c'est quoi? C'est d'abord, peut-être, envoyer d'abord la conciliation.
Non, d'abord, une lettre. Déjà, parler à son propriétaire.
Oui, ça me des choses.
Il répond pas, une lettre avec accusé de réception pour le notifier. Et puis là, ça peut marcher. Et puis après, on fait par la commission départementale de conciliation.
Donc on s'adresse à qui là?
On s'adresse au servicepublic.fr. Là, vous avez ça. Et puis après, bien évidemment, ça marche pas. Et là, on rentre avec le tribunal d'instance.
D'accord. Tribunal d'instance, enfin bon, ça va devenir tribunal tout court maintenant. Là,
tout court,
avec la, donc il faudra peut-être aussi. Le problème, c'est qu'il va peut-être falloir le recours à un avocat. Ça coûte des sous, tout ça.
Sûrement.
C'est un peu difficile.
C'est dommage d'en arriver là, mais pour un sujet aussi sérieux.
On revient dans un instant. 8h-20 sur RMC. Nous recevrons ce matin la directrice générale de Promotelec, Florence Delettre. Vous avez des questions concernant les installations électriques? C'est le moment ou jamais. Appelez-nous 3216. Laissez-nous votre numéro. numéro de téléphone, s'il vous plaît, ou alors via Direct Studio, là encore sur votre smartphone. Vous pouvez nous joindre à tout moment avec toujours votre portable pour qu'on puisse vous rappeler dans la minute.
Ça vaut mieux.
À tout de suite.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de ce week-end des experts, c'est la maison. On évoque encore pendant quelques minutes la sécurité de votre installation électrique avec l'actualité qui est quand même assez dramatique. On se rend compte qu'il y a une recrudescence, Christian et Florence Delette qui est notre invité, d'électrocution dans les salles de bain de personnes qui rechargent leur téléphone. C'est d'ailleurs un auditeur qui s'appelle Jean-Marc qui nous dit ça sur Direct Studio. Alors ça paraît évident, mais surtout ne pas utiliser un chargeur de téléphone dans la salle de bain.
Ça va de soi, et surtout ne pas, alors là ce sont les précautions basiques, dans toute pièce humide, il y a un certain nombre de contraintes techniques. Il y a par exemple ce qui s'appelle, alors on a parlé de la mise à la terre, mais dans une salle de bain, il y a ce qu'on appelle la liaison équipotentielle. C'est un terme un peu jargonesque, je dirais, mais ça veut dire que par exemple toutes les parties métalliques dans une salle de bain, par exemple une fenêtre en aluminium, doivent être accordées à la terre pour éviter justement tout risque d'électrocution. Dans cette affaire des téléphones portables, j'ai pas moi la relation des accidents qui se sont produits, mais a priori, il est clair que si on est dans sa baignoire et qu'on va rechercher une prise avec les pieds humides, avec un seul encarnage, et qu'on va brancher un chargeur de téléphone, eh bien on a tous les risques de s'électrocuter. Avant le transfo. Moi, je pense pas que là, on puisse avoir des risques.
Mais on va pas. Voilà, mais on vous conseille même pas de recharger votre téléphone quand vous êtes dans la baignoire. C'est
et voilà. Et puis, évitez aussi de mettre des rallonges. C'est-à-dire que si même l'installation est conforme, ne mettez pas la rallonge pour votre bain avec le portable en
charge. Si on éloigne une prise d'une baignoire, c'est fait exprès,
en fait.
Pas quelqu'un qui s'est trompé en construisant la salle de bain.
Il y a des zones aussi dans la salle de bain en fonction de la norme. On va pas avoir le temps ici de les présenter. Je mettrai le schéma Promotelex sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, vous pourrez aller voir exactement les règles d'installation dans la salle de bain.
Mm-hmm. Dernière question pour Florence. Puisqu'après on...
Oui, dernière question. Je sais pas, le coût d'une rénovation par un professionnel patenté, par un électricien.
Alors, je vais pas faire une réponse de normande, mais je vais simplement vous dire que ça peut varier, bien sûr, en fonction de la taille de la maison, en fonction de ce qu'on doit changer. Je vais dire peut-être si on mettait le bout à bout là, les fameux points de sécurité entre la prise électrique à changer.
On peut aller voir sur votre site.
On peut aller voir sur notre site.
Tu veux dire c'est promotelec.com.
J'en sais rien, .com, à vrai dire. Pardon.
On va essayer .com, je pense que ça devrait marcher.
Voilà. Et donc, on peut dire qu'entre 1000, inférieur à 1000, entre 200 euros et 2000 euros.
Voilà.
Mais bien sûr, attention, la région, la ville.
Puis ça dépend, s'il faut simplement remettre à jour le tableau ou s'il faut, par exemple, changer tous les conducteurs.
Voilà, tout à fait.
On trouve encore des installations avec des conducteurs, avec isolant textile des années 1930, qui sont complètement cuits, avec des dominos, même pas avec des épissures. Vous savez, les épissures, les liens qu'on faisait avec du ruban collant, le fameux Chatterton. C'est à prohiber.
Mais si on parle de mise en conformité, bien évidemment, là, c'est un autre prix.
Merci Florence Delette pour tous ces conseils. Rappelons que vous êtes directrice générale de Promotelec. Christian, il est 8h-10, on va terminer ce week-end des experts maison par votre coup de cœur.
Alors mon coup de cœur, c'est la fin du crédit d'impôt pour la transition énergétique au profit de ce que le gouvernement appelle prime rénov. Alors vous me l'avez souvent entendu dire, j'ai depuis longtemps été un des rares à ne pas être un fan du crédit d'impôt. Alors vous savez, le crédit d'impôt, ça consistait donc à faire des dépenses et puis ensuite avoir donc une réduction d'impôt l'année suivante ou de recevoir un chèque de l'administration. Ça mettait à peu près 18 mois entre le moment où vous aviez décidé de faire les travaux, commencer les travaux et moment où vous étiez, subventionné façon générale.
Ça peut poser des problèmes de trésorerie, bien sûr.
Absolument.
Et puis rappelons que si on ne paie pas d'impôt, le crédit d'impôt, l'État nous donne de l'argent.
Nous donne de l'argent. Alors, le système a vécu, ou plutôt il va disparaître complètement dans l'année, au profit d'une prime directe qui devrait être versée, cette fois dans les 15 jours au maximum, après le début des travaux, Bon, j'attends de voir. Je me demande si ça va vraiment fonctionner. Le bénéfice du système ira essentiellement aux ménages les plus faibles et à moyen revenu. Alors, ce qu'on appelle les déciles 9 et 10, c'est-à-dire les gens les plus fortunés, au-delà en gros de 50 000 euros par an. Donc, il n'y en a pas comme ça une foultitude. Mais eux, ils seront écartés. Alors qu'avant, ils pouvaient bénéficier de cette aide. Alors, c'est l'ANA, vous savez, l'Agence nationale de l'habitat, qui est chargé du déploiement du dispositif. Je lui souhaite quand même bon courage parce que la charge va être énorme. Alors on parle d'un budget total de 1 milliard 400 millions quand on met toutes les aides bout à bout. C'est considérable et comme c'est beaucoup plus qu'avant. C'est une affaire de gros sous. C'est pourquoi j'ai invité la secrétaire d'État au budget, Madame Pannier-Runacher, à venir la semaine prochaine dans cette émission. J'espère qu'elle sera bien disponible pour pouvoir nous expliquer justement le déploiement de cette mesure qui normalement devrait donner un coup de boost à la rénovation et notamment à la rénovation énergétique, à la rénovation des logements. C'est un enjeu national,
bien sûr,
très fort. Moi, je ne peux qu'applaudir au passage donc du crédit d'impôt. Merci la foule du crédit d'impôt donc à cette disposition qui s'appelle Prime Rénov. Faites attention, vous avez déjà plein d'offres qui vous arrivent sur Internet. Attention aux éco-délinquants. Le gouvernement a décidé aussi de taper fort dans ce domaine. J'espère que ça va être efficace. On pourra en parler justement avec elle. Donc soyez prudents. Ne répondez pas immédiatement à toutes les offres qui vous sont faites. Prenez bien vos précautions sur la fiabilité des entreprises qui vous font ces propositions alléchantes.
Voilà, on parlera de rénovation énergétique la semaine prochaine. En tout cas, si votre invité accepte notre invitation, je pense que ce serait bon.
C'est en bonne voie.
C'est en bonne voie, bien sûr. Bon. Mon cher Christian Pessé, à la semaine prochaine, bien évidemment. Vous vouliez poser une question concernant le plâtre à Christian Ecker.
Oui, je voulais savoir si
bonjour
le plâtre...
Christian Pessé, comment allez-vous?
Très bien.
Je vous trouve bonne mine aujourd'hui. L'émission a été excellente, comme d'habitude. Je ne juge pas, je constate.
Christian ne vous laissera pas parler. Non. De toute façon,
est-ce que
c'est
le plâtre
dans l'estomac,
c'est le même que celui qu'on
mais
fait
non,
pour...
Mais non.
C'est pas le même que pour les...
Je suis offensé, là.
Voilà.
Alors, en revanche, j'aimerais pouvoir vous dire que quand un jeune chiot mange le plâtre, pour lui, c'est absolument dramatique.
Ah bon.
Je pense que vous êtes au courant et c'est une des intoxications majeures de la médecine vétérinaire.
Et ça, le chien, ça mange le plâtre.
Ah oui, ça mange le plâtre quand c'est tout jeune.
Ah oui,
ça gratte.
Ça mange n'importe quoi. C'est ça le problème.
Ça mange les chaussures, n'importe quoi. Soyons sérieux, dans l'émission de tout à l'heure, nous allons parler des enclumes, l'enclume Michelin, du guide Michelin, qui fait en ce moment n'importe quoi.
Alors, ça, donc, c'est pas le plus important.
Oui,
on va parler des ORL, de l'ORL notamment.
Et nous allons recevoir un très grand médecin, ORL, qui va nous parler de choses très concrètes et pratiques.
Et qui va nous donner des conseils pour affronter l'hiver. Christian, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et Christian Ecker dans un instant pour la forme, la santé. 32-16 pour vos questions. L'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.